Dans ce cas, nous allons passer aux questions orales. Et donc, je propose au groupe Rambouillet en commun de commencer.
Ouf, on a plein de questions. Je vais lire très vite. Alors, notre première question. En décembre 2022, un grave accident de circulation a eu lieu au rond-point qui mène vers l'UIT de Rambouillet. Nous souhaiterions savoir si l'enquête de police liée au dernier accident a permis de mieux comprendre les origines de cet accident. Plus globalement, nous aimerions savoir si vos services font un relevé des zones accidentogènes sur le territoire de la commune et si c'est le cas, quelles solutions ils apportent à ces problèmes récurrents qui peuvent être dramatiques. Nous vous signalions par exemple... Au moins deux autres jeunes cyclistes avaient été renversés auparavant, en 2016 et 2019, à proximité du passage piéton à l'arrêt de bus Les Trois Seigneurs, qui devrait être précédé par un ralentisseur. Et nous pourrions relever d'autres incidents ou accidents. Les membres de la commission mobilité devraient disposer de ces informations pour travailler en toute connaissance de cause.
Alors, Madame la conseillère municipale, concernant l'accident que vous évoquez, seuls les services de police sous la conduite d'un officier de police judiciaire, sont compétents. Les procédures d'accident sont des procédures très minutieuses qui comprennent des constatations sur les lieux, sur les véhicules impliqués, des expertises, des auditions des parties prenantes et des témoins. C'est l'ensemble de ces éléments qui permet aux enquêteurs de comprendre les circonstances de l'accident et donc d'en déterminer la ou les causes et d'établir le niveau de responsabilité des personnes impliquées. Au final, c'est le tribunal correctionnel qui jugera définitivement des responsabilités dues ou des auteurs de l'accident, définira le niveau des sanctions pénales et éventuellement le niveau des dommages et intérêts en cas de constitution de partie civile. Pour toutes ces raisons, ces enquêtes revêtent un caractère confidentiel. Quand bien même nous pouvons avoir connaissance de certains éléments, nous ne sommes pas tenus informés des résultats des investigations et des responsabilités ou non responsabilité des diverses parties. Sachez néanmoins que dans la plus grande majorité des accidents, les facteurs sont le plus souvent humains et il arrive aussi dans certains cas que la victime soit auteur de l'accident ou du moins que sa responsabilité puisse être engagée. À propos du bilan global des accidents, j'ai sous les yeux les chiffres officiels enregistrés qui comprennent aussi la Nationale 10, hein, donc pour laquelle la commune n'est pas compétente, mais en termes de nombre d'accidents, la Nationale 10 en fait partie. En 2019, nous comptions un total de 28 accidents ou incidents, 11 de véhicule à véhicule, 1 de véhicule à cyclo, 7 de véhicule à vélo et 9 de véhicule à piéton. En 2020, nous baissons à 22 incidents avec 7 véhicules à véhicule, 5 véhicules à cyclo, 1 véhicule à vélo et 9 véhicules à piéton. En 2021, il y a relevé 7 accidents-incidents avec 4 véhicules à véhicule, 1 véhicule à cyclo et 2 véhicules à piéton. Et enfin, en 2022, 3 véhicules à vélo, un véhicule à piéton pour un total et un véhicule seul, pardon, pour un total de 5 accidents. Vous remarquerez que nous sommes passés de 28 accidents-incidents en 2019 à 5 l'année dernière. Je tenais à souligner ces résultats qui font écho à notre engagement en matière de sécurité routière. Nous faisons tout le nécessaire pour réduire au maximum le nombre d'accidents à Rambouillet. En témoignent les reprises récentes des marquages au sol, l'extension de la zone 30 ou encore l'aménagement de notre voirie, comme dans la rue Pasteur. Je précise également qu'au-delà des aménagements physiques de voirie, nous enregistrons une augmentation des contrôles de vitesse, 170 en 2022, pas 170 à l'heure, hein, 170 contrôles, bien sûr, et des contrôles coordonnés de manière générale sur la route avec nos partenaires à hauteur de 48, sans compter nos nombreuses actions de prévention et de formation en direction des jeunes publics, menée par notre agent de prévention de la police municipale, jeunes piétons sur la voie publique, 12 classes ont été concernées avec 150 enfants, plus le savoir rouler à vélo, 290 enfants de CM2. Bien sûr, rappelons l'importance du facteur humain dans les accidents, qui appelle à la responsabilité de chacun et au respect du code de la route. Ça paraît idiot de le dire, mais mieux vaut le préciser. Pour notre part, nous continuerons de nous appuyer sur les services de police, autorités compétentes qui, au passage, n'ont défini aucune zone accidentogène à proprement parler. En conclusion, sachez qu'en ce qui concerne l'accident de décembre 2022, je suis restée sur place toute une partie de la matinée ce jour même, enfin le jour même de l'accident, et j'ai pris des nouvelles de l'enfant accidenté auprès de sa famille. J'ai le plaisir de vous dire que sa convalescence se déroule dans les meilleures conditions possibles. Voilà. La question suivante.
Oui, bien sûr. Madame le maire, nous souhaitons obtenir plus d'informations sur les actions que vous souhaitez mettre en place par rapport aux graves risques structurel de l'immeuble en construction 33 rue de la Prairie, dénommé résidence de l'Olivier. Ce chantier est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Notre courrier recommandé du 1er février s'appuyait sur un diagnostic réalisé par la société Bâtiment Modélisation Ingénierie en date du 1er décembre 2022 et présentant comme conclusion des solutions à des désordres structurels majeurs dans la conception de cet immeuble. Il est précisé que des risques importants d'effondrement existent. Notre inquiétude est renforcée par la proximité d'une sortie de la gare SNCF, proche de la gare routière, lieu de vie important avec beaucoup de personnes qui circulent à cet endroit. Sans oublier que cette construction peut endommager l'immeuble accolé à lui, le Montparnasse, et l'ensemble des bâtiments et riverains de la parcelle. Votre réponse à notre courrier du 16 février nous précisait que vous aviez saisi les services compétents de la mairie et que ce dossier sera traité avec la plus grande attention. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, l'ancienne procédure de péril a été remplacée par la procédure de mise en sécurité, dont le premier fait générateur est le défaut de solidité. Vous disposez d'une palette de prérogatives légales pour agir sur le territoire communal afin de préserver et, dans certains cas, rétablir la sécurité et la santé des occupants, tiers ou usagers d'immeubles et édifices menaçant ruine. C'est pour cela que nous souhaitons connaître vos intentions et si vous prévoyez des mesures prescrites par la loi conformément à l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation. Dans ce courrier, nous nous interrogions aussi sur un immeuble en construction au 73 rue de Gambetta, le Cheval Blanc, qui appartient à la même société et qui est à l'arrêt aussi depuis plusieurs mois. Est-il prévu de faire un diagnostic de cet immeuble? Avez-vous entrepris des actions? Avez-vous pris contact avec le constructeur? Je rajoute simplement que depuis, on a appris que des personnes qui, a priori, avaient investi dans ces immeubles se posaient beaucoup de questions, puisqu'ils n'avaient plus du tout de nouvelles sur ce qui se passait. Ils voyaient que les chantiers étaient à l'arrêt. Et ils n'avaient aucune information. Donc je pense que ça intéresse aussi des personnes qui ont investi à l'intérieur de ces immeubles.
Monsieur le conseiller municipal, ce dossier a en effet été confié à la direction d'urbanisme et de l'aménagement qui est en contact avec le promoteur des deux programmes que vous évoquez. La commune a échangé à plusieurs reprises avec le promoteur oralement. Toutefois, notre courrier en recommandé avec avis de réception est resté sans réponse. Face à des éléments contradictoires, nous avons saisi un avocat qui nous accompagne afin de gérer au mieux cette affaire dans l'intérêt de tous. Ce dernier a fait adresser au promoteur par voie d'huissier un courrier de mise en demeure avec un délai de 10 jours à réception. Nous attendons la preuve écrite que les mesures indispensables et suffisantes pour garantir la sécurité du chantier et de l'immeuble ont été prises. En l'absence d'une réponse satisfaisante, la procédure adéquate sera engagée avec l'appui de notre avocat. Je vous confirme prendre au sérieux la sécurité publique qui relève de mes prérogatives. La commune fera donc application des dispositions législatives et réglementaires adéquates, comme elle l'a toujours fait par le passé. En revanche, je tiens à préciser que nous refusons de nous immiscer dans les relations d'ordre strictement privé, voire contractuel d'ailleurs, entre le promoteur, ses acquéreurs et les riverains. Mais nous en sommes conscients et nous faisons ce qu'il faut. La question suivante.
De nombreux habitants nous demandent la situation sur le futur cinéma et sur la construction du futur cinéma et de l'hôpital. Pourriez-vous faire le point sur ces sujets ?
Alors, monsieur le conseiller municipal, comme je vous en ai déjà informé, les projets du cinéma et de l'hôpital sont tous les deux en étude. Je vous rappelle déjà que le premier relève du secteur privé et le second est actuellement dans les mains des autorités de l'État. Donc, nous ne pouvons malheureusement pas communiquer librement sur les éléments qui sont en cours. Toutefois, à propos du cinéma, vous avez pu constater que nous avons fait le choix, nous en avons parlé, de réserver une ligne budgétaire pour pouvoir répondre à une demande d'aide au projet si son évolution le demandait. Soyez assurés que j'ai vraiment la ferme volonté de voir à Rambouillet se construire un vrai cinéma et pouvoir aller au cinéma dans des vrais fauteuils, avec un appui-tête et une bonne inclinaison. Enfin, concernant le nouvel hôpital, qui assurera une qualité d'offre de soins adéquat aux besoins du territoire, l'ARS a bel et bien confirmé son intérêt pour ce nouvel établissement. Toutefois, le projet présentant un coût supérieur à 150 millions, il doit faire l'objet d'une étude et d'une validation auprès du Conseil national de l'investissement en santé. Sachez que je m'assure au quotidien du bon avancement, et avec d'autres élus ici présents, du bon avancement de ces deux dossiers qui sont pour moi une priorité et que, bien sûr, dès que nous aurons la possibilité d'informer les Rambouillétains, nous le ferons avec grand plaisir. Et je vous tiendrai au courant au préalable.
Mais au sujet de l'ARS, est-ce que c'est acté officiellement pour l'hôpital ou pas ?
Mais alors, ouais. Est-ce que vous avez écouté ce que
oui,
je vous ai dit,
mais
monsieur
Poulet ? Est-ce que c'est signé, je veux dire ?
Est-ce que vous avez écouté ce que je vous ai dit, monsieur Poulet ?
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas signer puisqu'ils sont obligés de passer en Conseil national investissement en santé, puisque nous avons dépassé le budget de 150 millions d'euros. Donc l'ARS, en effet, a montré son intérêt pour ce projet-là, mais il faut que ça passe d'abord en conseil pour étude et validation, qu'il y ait un engagement plus avant.
D'accord. Est-ce que conseil se tiendra dans...
Ah, alors,
je sais pas, d'accord.
C'est l'État, monsieur Poulet.
Et par rapport au cinéma, vous étiez en transaction, enfin, vous n'aviez pas de réponse la dernière fois, pas de réponse du propriétaire du terrain.
Nous n'en avons pas plus.
Pas plus, c'est toujours au même point. D'accord. Et donc, que prévoyez-vous dans ce cas-là pour...
Ah ben, je vous ai dit, c'est privé quand même, on ne peut pas intervenir. On relance, on est présent, on relance, on téléphone, on fait des courriers et nous ne désespérons pas qu'au bout d'un certain temps, nous finissions par avoir des réponses. Je pense qu'il y a des études aussi, hein. Enfin, c'est là aussi, il faut laisser aux personnes le temps, mais on ne lâche pas. Et je souligne que notre service urbanisme est très présent sur l'affaire, très présent. Alors, nous passons... Ah, pardon.
Est-ce que la bonne fréquentation du cinéma de la Lanterne pourrait influencer...
Peut-être.
On peut espérer que, comme on voit que le cinéma reprend du poil de la bête, souvenez-vous que cette affaire est arrivée à un moment extrêmement difficile, et dans lequel beaucoup d'interrogations se posaient sur le plan du cinéma. Et donc, même nos négociations se sont déroulées avec les propriétaires actuels du terrain dans ce cadre-là. Et c'est normal que les choses se décomptent et qu'à un moment donné, elles puissent se reprendre. Donc, il faut laisser quand même un petit peu de temps aux affaires de se faire. Nous avons bon espoir que ça aille dans le bon sens compte tenu de la reprise du monde du cinéma, mais il est un peu tôt pour pouvoir vous dire exactement ça va aboutir. Donc, laissez les tractations ou les négociations se faire. Et je pense qu'on sera à même de communiquer au plus vite dès que ces tractations auront avancé.
Alors, les questions pour le groupe Génération Rambouillet.
Merci, Madame le Maire. Madame le Maire, suite à des demandes d'habitants, vous avez fait retirer les supports de communication de l'exposition du photographe Joël Peter Wilkin.
Cette décision a été perçue pour un grand nombre de rambolitains et de médias nationaux comme de la censure. Vous avez évoqué dans la presse locale que c'était une exposition controversée et que vous avez eu des réactions et donc vous avez apporté des réponses ajustées et adaptées. De surcroît, la Bibliothèque nationale de France a organisé dans ses murs une rétrospective de plus de 150 œuvres de Joël Peter Wynkin, sans qu'il n'y ait eu aucune demande de fermeture ni de censure. L'exposition a été ouverte à l'ensemble du public. Donc, Madame le maire, pouvez-vous nous dire combien de rambolitains ont exprimé leur mécontentement ?
Alors, Madame la conseillère municipale, la question que vous posez est une bonne question, car elle pose elle-même la problématique de la juste proportionnalité de la décision. J'entends par là trouver le bon équilibre dans l'action en fonction des réactions de chacun. Pour répondre en toute transparence, nous n'avons pas tenu de comptabilité. Si je prends les courriers, les appels reçus, plus les nombreuses interpellations dans la rue, nous sommes certainement de toute façon à plus d'une cinquantaine de revendications. C'est donc à la suite de ces diverses interpellations que nous avons pris la décision de réduire, non pas de censurer, la communication d'exposition. Vous imaginez bien que j'ai pris cette décision par anticipation de potentielles tensions exprimées au regard de mes pouvoirs de police, étant attachée à la cohésion et non pas pour faire plaisir à tel ou tel groupe. Ma position était aussi celle d'éviter d'éventuelles dégradations des tableaux exposés, acte que nous avons pu voir se répéter ces derniers temps dans des musées, y compris des musées connus. Je me suis d'ailleurs entretenue dans ces mêmes termes avec le commissaire de cette exposition. Question suivante.
Madame le maire, merci. Madame le maire, après l'incendie de la mosquée de Rambouillet qui a eu lieu dans la nuit du 3 septembre 2022, les fidèles pouvaient prier tous les vendredis et ce, dès le 9 septembre, dans un bâtiment de l'hippodrome. En revanche, l'accès à ce bâtiment a été fixé à une date limite d'accès à ce bâtiment a été fixée au 31 décembre dernier. De ce fait, Madame le maire, pouvez-vous nous faire un point sur l'évolution de la situation ?
Alors, Monsieur le conseiller municipal, merci de vous préoccuper de nos concitoyens de confession musulmane qui ont fait face, en effet, à une situation inacceptable que je condamne fermement. Pour répondre à vos questions, j'ai été informée par le président de l'association des musulmans de Rambouillet, lui-même, qu'ils ont trouvé un local leur permettant d'assurer une continuité d'accueil pour les fidèles et ainsi pratiquer leur culte dans des conditions favorables. Voilà. Et je crois que c'est la dernière question.
Oui, c'est la dernière. Alors, la médiathèque de Rambouillet est fermée 3 jours par semaine et n'est ouverte que 2 matinées par semaine à partir de 10h. Notre médiathèque présente des horaires d'ouverture assez irréguliers. Serait-il possible, d'une part, d'avoir une amplitude horaire plus importante, notamment pour les plus jeunes d'entre nous et tout particulièrement pour les étudiants à l'approche des examens, et d'autre part, des horaires d'ouverture plus réguliers, donc plus lisibles pour les utilisateurs, et ce, afin de rendre notre médiathèque plus attractive encore, plus que maintenant, on va dire.
Alors, Monsieur le conseiller municipal, en premier lieu, je tiens à porter à votre connaissance que les horaires d'ouverture de la médiathèque La Lanterne se situent dans la moyenne haute des villes de la même strate. Par ailleurs, la médiathèque est bien ouverte au public les mardis matins, jeudi matin et vendredi matin, puisqu'elle accueille les groupes scolaires et les crèches sur ses plages horaires. Au vu des ressources humaines actuelles très contraintes, une réflexion a été menée sur une amélioration des horaires d'ouverture afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, car notre volonté est bien de mettre en adéquation le service de la lecture publique avec les rythmes de vie, les besoins et les attentes des citoyens. Aussi, en faisant le choix récemment d'expérimenter l'ouverture sur la pause méridienne du vendredi, ouverture à 12h au lieu de 14h, il est proposé de s'adresser aux actifs, aux agents de la mairie, qui cherchent également un lieu agréable et gratuit pour prendre leur pause déjeuner, mais aussi au public étudiant, toujours très demandeur d'un lieu de travail, sur une période journalière plus longue, de 12h à 18h30 au lieu de 14h à 18h30. Concernant ce public étudiant, un espace de travail a été réaménagé à l'étage et les étudiants s'en sont vite emparés d'ailleurs. Le projet est également de développer d'autres espaces de travail dédiés au sein de la médiathèque. L'ouverture de ce créneau a permis de développer un nouvel usage. Je peux déjeuner tout en bouquinant, avec l'installation de l'espace jardin quand il fait beau et l'installation d'un espace intérieur pour les périodes un peu moins agréables en termes de météo. Cette proposition n'a été possible qu'en fermant au public le jeudi après-midi. Seul créneau disponible pour faire des réunions d'équipe pour le montage des projets, parce que là aussi, il faut que les équipes puissent travailler sur les projets, car sans accueil de groupe et donc accueil de public. Aucune plainte d'usager, d'ailleurs, n'a été enregistrée. Enfin, sur la régularité des horaires, ils sont identiques les mercredis et samedis de 10h à 18h30, le mardi, ouverture de 14h à 18h30, et le vendredi de 12h à 18h30. Voilà, monsieur de Santos. Eh bien, puisque nous avons épuisé l'ordre du jour, alors, monsieur Jutier, il est donc 6:00, voilà. Eh bien, je n'ai pas de petite cloche, mais je dis que la séance de ce conseil municipal est levée et je vous souhaite une bonne nuit. Et je salue nos internautes, que je remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.